et c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
Ce matin, Julie, au cœur des violences à l'est de la République démocratique du Congo, la question du contrôle des routes.
Oui, nous avons déjà évoqué ici l'importance pour toute la région des Grands Lacs de ce qui est en train de se passer dans le Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, où le M23 a repris les armes. Ce groupe rebelle a pendant plusieurs jours contrôlé un poste frontière stratégique dans la ville de Bunagana, limitrophe de l'Ouganda, mais située dans la zone des trois frontières, donc pas très loin non plus du Rwanda. Ce poste représente pour qu'il contrôle une manne financière considérable, car les flux de marchandises y sont fortement taxés. Alors quand le M23 a rouvert le poste frontière de Bunagana, l'armée congolaise s'est empressée d'en interdire désormais tout trafic commercial, histoire de tarir les ressources du M23. Bonjour Père Chouten.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur à l'Institut danois d'études internationales et chercheur associé à l'International Peace Information Service. Et vos recherches portent justement sur l'économie politique des conflits en Afrique, entre autres sur le rôle des taxes de transit dans le financement des groupes armés dans l'est de la RDC. Qu'est-ce qu'on peut dire plus spécifiquement de cette ville de Bunagana dans le financement de ces groupes et du M23 ?
Merci beaucoup Julie pour m'inviter. Mm-hmm. En fait, Bunagana, c'est un endroit clé pour comprendre ce qui s'est en train de passer parce que Bunagana, c'est une poste frontalière qui entre l'Ouganda et l'RDC. Elle est à un peu près 10 kilomètres de Goma. C'est le
Alors, on vous a perdu, Père Chouten. On va essayer de vous retrouver décidément. En ce moment, c'est un petit peu compliqué. Cette ville de Bunagana, vous en parlez justement dans un livre que vous avez fait paraître en janvier en anglais. Je crois que c'était aux presses universitaires de Cambridge. Et vous expliquez dès l'introduction de ce livre que justement, cette ville de Bunagana, cette barrière routière, était déjà il y a 10 ans la clé du financement des groupes armés. On vous a retrouvé, Père Chouten.
Oui.
Voilà. Beaucoup. Et donc, vous parliez de Bunagana et que c'était la clé du financement des groupes armés déjà il y a 10 ans. Pour quelle raison ?
En fait, oui, Bunagana, c'est une poste frontalière clé dans l'est du Congo avec l'Ouganda. Pourtant, la route de Bunagana jusqu'à Kampala, la capitale de l'Ouganda, c'est à peu près 500 kilomètres. Par contre, Bunagana, c'est juste à 150 kilomètres de Kigali, la capitale de Rwanda. Donc, dans le contexte géopolitique de la région, il faut comprendre Bunagana vraiment comme un point clé entre les trois pays voisines. Et il y a exactement 10 ans que M23 a été surgi pour la première fois. La première poste qu'ils avaient pris sous contrôle, c'était en fait Bunagana. C'était leur chef-lieu pendant toute la rébellion. Pour des raisons géopolitiques, c'est un endroit très stratégique. Mais aussi, Bunagana, c'est une poste frontalière où les douanes de la RDC font beaucoup de revenus. On a estimé dans le 2012, donc la première fois que M23 a pris le contrôle de Bunagana, que cette groupe armée a peut-être gagné autour de $650,000 par mois de la taxation du trafic entre l'Ouganda et l'est de la RDC.
Et notamment le trafic commercial légal, parce que de grandes multinationales sont basées dans la région et font transiter leurs produits par ici. Lesquels, par exemple ?
En fait, oui. Même si le Congo, c'est un pays assez pauvre, il y a une très grande population consommateur de, par exemple, le Coca-Cola, la bière. On peut trouver la bière de Heineken dans tous les villages dans l'est du Congo, les produits de Nestlé. Donc, toutes ces sociétés multinationales font transiter, écouler leurs produits dans l'intérieur de Congo par des postes frontaliers comme Bunagana, mais aussi par des routes commerciales à l'intérieur. Et sur toutes les routes à l'intérieur de la RDC, on trouve des barrières routières. À presque chaque 10 kilomètres, il y a une barrière routière où soit des groupes armés, soit des hommes armés de l'armée congolaise taxent en fait le transit. il y a 10 ans, donc la première rébellion de M23, on a découvert que la société multinationale Heineken, qui est le producteur de la bière Bralima, notamment le Primus, qui est la bière le plus bue au Congo, a peut-être payé pour chaque camion de bière autour de $300 par barrière sur contrôle de M23. Mmh. Et M23, à ce moment-ci, contrôlait un réseau autour de 20 barrières routières. Donc, on a calculé que pendant toute la rébellion de M23, entre 2012 et 2013, M23 a pu gagner peut-être $1 million seulement de la taxation de la bière produite et commercialisée par la société multinationale Heineken.
Et si vous êtes aussi précis, Pierre Schouten, c'est parce qu'avec vos collègues congolais, vous avez cartographié plus de 800 barrières dans le nord et dans le sud Kivu, aussi bien aux frontières que sur les routes de la République démocratique du Congo. Quelle place prennent aujourd'hui ces ressources-là pour les groupes armés, les ressources liées au trafic commercial, qu'il soit légal ou illégal, par rapport, par exemple, à ce qu'on a toujours désigné comme étant leur ressource principale, qui étaient les mines?
Oui. Souvent, quand on parle du financement de conflits en RDC, on parle de minerais de conflit, parce qu'on soupçonne que cette richesse en minerais qui on trouve à l'est du Congo est l'enjeu principal pour le combat entre les groupes armés et l'État, mais aussi la source principale de financement de ces groupes armés. Mais il faut imaginer qu'un site minier, c'est peut-être des milliers de jeunes hommes assez forts qui se battent chaque jour pour trouver juste un petit peu d'argent. Ils sont assez indépendants. Et d'essayer de contrôler un site minier comme ça, c'est en fait très difficile. Et en plus, pour essayer de les imposer des taxes, ce n'est pas aisé. Par contre, pour monter une barrière routière, on a seulement besoin d'une petite file. On peut être à 2 ou à 3, peut-être un Kalachnikov ou peut-être 2. Et la seule chose qu'il faut faire, c'est juste se mettre au bord de la route et imposer que chaque personne ou chaque camion qui veut passer laisse un tout petit montant pour pouvoir passer. Donc c'est une mode opératoire assez aisée, et on a découvert que chaque groupe armé déploie des barrières routières. Comme une amie liée à un groupe armé m'a dit, la première chose quand on est déployé, c'est de monter une petite construction pour se protéger contre la pluie, et la deuxième chose qu'ils ont fait, c'est de monter une barrière routière pour obtenir un peu d'argent. Donc M23, c'était pas une exception dans le genre de qu'ils n'avaient pas des sites miniers sous leur contrôle. Par contre, pour eux, l'enjeu stratégique, c'était de contrôler les routes commerciales où passaient tous les minerais, mais aussi les flots commerciaux et l'aide humanitaire. Donc en contrôlant des points stratégiques de passage obligatoires pour tous ces flots, une groupe armée peut facilement monter une raquette assez durable. Et on voit effectivement que les groupes armés se battent autant pour le contrôle des routes commerciales que peut-être pour le contrôle de certains sites miniers. Donc, en fait, il faut se poser, quand on veut comprendre le financement de conflits dans cette partie du monde, c'est quoi le plus aisé? Est-ce que c'est faisable de contrôler les sites miniers? Ou quand on est un groupe armé aspirant, est-ce que ce n'est pas beaucoup plus aisé de se mettre au bord de la route et juste taxer tout le monde qui fait passer? Et en fait, en cartographiant plus de 800 barrières dans l'est du Congo, 300 barrières dans la République centrafricaine et plus de 300 au Sud-Soudan, on croit qu'on peut démontrer que cette modèle est vraiment répandu parmi les groupes armés dans cette région.
Donc l'armée congolaise a pour l'instant repris le contrôle de ce poste frontière de Bunagana et a interdit tout trafic commercial. On verra si cela finit par tarir un tant soit peu le financement du M23. Quel rôle jouent ces routes commerciales dans la politique régionale cette fois, dans la rivalité qui oppose l'Ouganda et le Rwanda? On en a parlé là encore dans les précédentes émissions consacrées aux violences dans le Kivu. Le Rwanda est fortement suspecté de soutenir en sous-main le M23. Il accuse aussi une rivalité avec le Grand Ouganda, son l'autre voisin oriental de la RDC. Comment les différentes parties jouent de ces routes commerciales pour appuyer leurs propres intérêts?
Oui, c'est en fait une très bonne question et une question très pertinente aussi parce que il faut juste imaginer un peu la carte de la RDC et là on voit un pays extrêmement vaste, si grand presque comme l'Europe occidentale et à le côté de l'est de cette géant au cœur de l'Afrique, il y a ce qu'on appelle le petit voisin dans la région, c'est le Rwanda. Et puis juste en haut, il y a l'Ouganda qui sont collés un peu à la frontière avec la RDC. Donc la RDC n'a pas de capacité industrielle de production de produits manufacturés. Elle doit importer tout pour une population assez considérable de 80 millions d'habitants, concentrés fortement à l'est du Congo. Donc, il y a une très grande marché de produits manufacturés et le Rwanda et l'Ouganda sont en compétition pour être des points de passage pour les chaînes d'approvisionnement pour ces produits à l'est du Congo, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est dans ce processus logistique. Mais aussi l'envers, donc l'est du Congo, avec tous les minerais et la richesse en bois, par exemple. Si c'est exporté par l'Ouganda, ça veut dire une source de revenus, des impôts très, très, très considérables. Donc l'Ouganda et le Rwanda sont en fait dans une compétition commerciale pour être le point de passage pour les exportations souvent illégales de l'est du Congo, des minerais et des ressources naturelles, pour en fait le réexporter légalement de leur propre pays. Donc si on compare les statistiques d'export de l'or entre l'RDC, grand producteur de l'or, avec les statistiques d'export de l'or de l'Ouganda, qui n'a pas vraiment de mine, on voit que c'est presque entre 4 et 10 fois plus chaque année que l'Ouganda exporte en quantité d'or.
Voilà.
Et il y a beaucoup d'argent qui y a dans cette affaire.
Voilà, d'après le Trésor américain, 90% des ressources minières de l'or produit dans le Kivu est exporté illégalement et la plupart transitent par le Rwanda et l'Ouganda, ce qui contribue à nourrir des trafics puisque les commerçants en or qui importent de l'est de la RDC collaborent avec des opérateurs économiques ougandais qui sont pour la plupart très liés à l'armée ougandaise. Il faut vraiment lire vos travaux, Pierre Schouten, pour en savoir plus. Votre dernier ouvrage, Roadblock Politics, a paru en janvier à Cambridge University Press. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Merci les enjeux.
Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouveaux enjeux territoriaux et de nouveaux enjeux internationaux. Julie Gacon, et pour les vôtres, c'est à 6h45.
France Culture. L'esprit d'ouverture.